BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 21h30. Et évidemment, si vous avez raté le début, bien vous pourrez toujours nous revoir en replay. C'est la dernière de la semaine, donc il y aura aussi du replay tout le week-end. On va parler ce soir, tiens, un sujet dont on parle un peu moins, les câbles sous-marins. La France veut retrouver sa souveraineté dans le domaine. Eh bien, et s'est lancée dans le rachat d'une société qui était avant Alcatel, qui était à Nokia. Enfin voilà, on va débriefer tout ça et savoir pourquoi la France veut avoir la main sur ces câbles. On parlera également d'Amazon. Amazon qui rejoint le club très fermé des capitalisations de plus de 2000 milliards de dollars. Et oui, ça signifie quand même quelque chose. On verra quels sont les défis d'Amazon. Et puis en deuxième partie de soirée, eh bien, tiens, on fera un tour sur les smartphones pliables, pas ceux de Samsung, ceux de Motorola. Vous allez voir, il y a pas mal d'innovations dans le domaine. Et puis, on prendra l'envol avec un avion électrique d'une vingtaine de places. Et oui, c'est aussi ça l'avenir. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et on se retrouve avec nos invités pendant que je m'installe tranquillement, nos débriefeurs qui sont là ce soir pour tous ces sujets. On est avec Frédéric Bianchi, bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Fred,
merci d'être avec nous, qui a juste descendu deux étages, parce que c'est journaliste chez BFM Business. Avec nous ce soir, Claudia Cohen, bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Journaliste au Figaro, et ben voilà, il y a pas mal de choses que tu écris chaque semaine, mais cette semaine on va revenir notamment sur certains de tes articles. Et puis Didier Sens, bonsoir.
Salut.
Didier, journaliste de la tech. À un moment, j'avais vu un sujet sur Atari qui revenait. Je me suis dit, tiens, ça va être un sujet pour Didier. Et puis bon, la news datait
un peu. Le dinosaure, c'est ça.
Le dinosaure, voilà. Allez, on va parler aux anciens. Hier soir, on fêtait la fin de l'ICQ,
oui,
qui terminait ses 30 ans. Et c'était hier, hein, c'était le 26, donc on a fêté tout ça. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, hein, sont les câbles sous-marins. On les emprunte tous les jours, sans vraiment le savoir. Et puis là, bien, c'est Nokia qui cède Alcatel Submarine Networks à l'État français. Alors Alcatel, parce que Nokia avait racheté cette partie Alcatel, ensuite c'est revenu chez Nokia, et puis l'État a décidé de reprendre la main là-dessus. On va en parler ensemble. On reviendra aussi, tiens, sur une news, d'avoir si c'est important ou pas, parce que beaucoup, je regardais la presse américaine, elle rebondissait beaucoup dessus. C'est Google Traduction qui va parler breton, moi ça m'arrange, occitan pour ceux qui sont plus dans le sud,
créole,
créole, qui va rajouter plus de 100 langues, hein, et on va voir si c'est important ou pas, parce qu'évidemment il y a de l'IA autour de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est juste pour préserver un patrimoine culturel, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt business, un vrai intérêt technologique derrière tout ça? Et puis dans cette première lumière, greenwashing chez les GAFAM. Voilà, il y a un écran zéro consommation chez Samsung. On verra si c'est vrai, si c'est vrai ou pas. Et puis les Apple Watch sont-elles neutres en carbone? En tout cas, l'Europe en doute un peu. Voilà, on va parler de tous ces sujets. Merci d'être avec nous tous les trois. Merci de nous suivre sur BFM Business. Réagissez évidemment sur le compte Twitter. Alors, on va démarrer avec ces câbles. Alors évidemment, ça arrive dans un contexte politique, économique en France où, voilà, vous savez, Katos, on essaie de rattraper aussi tout ce qui est souverain. L'État essaie de remettre la main sur tout ce qui est souverain. Et puis là, l'État a décidé de nationaliser encore des activités stratégiques, alors liées en partie au renseignement militaire. En tout cas, c'est ce que nous dit Mathieu Pechperti. On l'écoute et on réagit juste après.
Difficile de n'y voir qu'une coïncidence. À deux jours des élections législatives, l'État nationalise des activités sensibles pour le renseignement militaire. Cette ancienne filiale d'Alcatel transporte sous les océans des câbles de l'armée. Les services secrets l'utilisent aussi pour capter des données et écouter les télécommunications. Les 1200 salariés voient régulièrement des fonctionnaires de l'armée, du ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères visiter les sites de Calais et des Ulysses. Les noms de clients sont regardés de près, assure l'un d'entre eux. Alcatel Submarine Networks travaille aussi pour Facebook et Google, mais que pour des entreprises de pays alliés. La guerre en Ukraine a changé la donne et ces câbles sous-marins deviennent des cibles. Face à un tel risque, le gouvernement avait engagé des négociations avec Nokia depuis un an. Déjà en 2015, il avait échoué à adosser la société à des industriels proches de l'État comme Orange et Thales. Lorsqu'Alcatel s'était vendu à Nokia, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, voulait déjà garder la main dessus.
Voilà, on va rappeler en quelques mots l'activité de cette, les activités de Alcatel Submarine Network. Donc, ils ont des bateaux pour poser des câbles. Ils ont aussi tout ce qui est la connectique en fibre optique. Ils ont tout un tas de brevets pour que plusieurs transmissions puissent passer sur un seul fibre optique, une seule fibre optique sous-marine. Ça appartenait à Alcatel. Et puis, je crois que c'est dans les années 2015. Nokia, Alcatel était un peu découpé. Et donc, Nokia avait racheté cette partie-là. Enfin, je crois que c'est 2019, Nokia avait essayé de revendre cette partie-là à Orange, BPI France, ça ne s'était pas fait. Bon, le Covid est arrivé par-dessus. Et puis là, ça y est, Nokia cède ASN à l'État français.
80%.
80%, oui. Alors, le chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 1 milliard. Ça a été cédé pour 100 millions.
C'est valorisé 350 millions.
Voilà, et puis on le rappelle, Mathieu Pechperti le disait dans le reportage, sur ces fibres optiques, l'essentiel de nos communications internet, donc du Google, du Netflix aussi, il faut le dire de plus en plus le soir. Comment il faut voir ça, Claudia? Je démarre avec toi.
Ce que disait un petit peu Mathieu dans le reportage, c'est un mouvement assez stratégique de la part de l'État qui était, à mon sens, quand même essentiel parce qu'en face de l'État français, il y avait des acteurs étrangers qui convoitaient aussi ces câbles. Finalement, c'est cher sans être cher, on va dire. L'État a d'ailleurs précisé que le montant, les 100 millions avaient été budgétés dans le précédent budget.
Rappelons qu'on est dans un contexte politique un peu particulier.
Dans deux semaines, peut-être tout va changer et ceux qu'on connaît ne seront plus au pouvoir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour Nokia aussi, il faut dire que c'était peut-être le bon moment de céder ses activités. On sait, Nokia est un peu est encore un peu en difficulté sur son cœur de marché parce que maintenant, avec la 5G, on va dire, qui est bien installée, il y a moins besoin de la part des clients d'être équipés. Donc, c'est un peu plus compliqué pour Nokia. Il y a eu un grand plan social aussi qui a été annoncé avec, je crois que c'est plus de 10 000 emplois supprimés. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Et ça n'apparaissait plus dans les priorités stratégiques, en tout cas, pour Nokia.
Exactement. C'est une très bonne nouvelle et je pense que l'État aurait le mérite de faire la même chose sur d'autres dossiers. Et finalement, mieux vaut qu'on ait ça dans les mains des Français plutôt que dans les mains des Américains ou d'autres Européens.
Didier, pour une fois, la souveraineté bien choisie, là.
Voilà, donc là, on est clairement dans ce registre-là. On a parlé du cloud souverain, on a parlé de tout autre chose qui ne marche pas. Ouais. Là, ça marche. On a une solution pour gérer nos communications Internet. Les câbles sous-marins, c'est quand même 99% du trafic. C'est donc énorme. C'est effectivement un enjeu stratégique, comme tu disais.
Et puis nous, on est un nœud important à travers la Bretagne, à travers Marseille aussi, qui est un gros nœud d'arrivée de fibre optique.
Et il fallait réagir parce que la concurrence est rude. En ce moment, c'est surtout une concurrence japonaise, c'est NEC. Une concurrence américano-suisse avec... je ne sais plus comment elle s'appelle cette société, T-Subcom. Oui. Donc c'est bien, c'est un geste fort qui montre que l'État est sensible à ces questions-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de cette boîte qui effectivement a été rachetée à l'époque.
Pour ceux qui adorent les télécoms, toute l'histoire est belle en plus.
Ça commence en 1850 ces eaux-là. Ouais. C'était à l'origine un opérateur de câbles de télégramme, télégraphe qui passait entre l'Angleterre et la France. C'était une boîte anglaise d'ailleurs. Et la société a été rachetée par la CGE. Je sais plus si c'est dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et la CGE étant devenue après Alcatel, etc., elle a grandi avec. Donc maintenant, il y a des usines à la fois dans le Pas-de-Calais et aussi en Angleterre.
Oui, il faut bien dire que c'est pas... Alors, il y a des bateaux,
ils ont une flotte de bateaux
pour poser ces câbles, mais comme tu l'as dit, il y a des usines parce que derrière, il y a la fabrication des câbles. Et puis, il y a beaucoup de brevets, il y a la technologie. Alors, pour ceux qui suivent la fibre optique, c'est la technologie WDM qui permet d'être encore plus puissant sur une même fibre. On va faire passer plusieurs technologies. La technologie d'ailleurs de ASN est plutôt bien reconnue, elle est utilisée. D'ailleurs, là, le fait qu'ils puissent, parce que Nokia avait la sienne, ça aussi c'était, il y avait une petite compétition interne, et on peut imaginer que ils vont un peu pousser cette technologie. Souveraineté, parce que on l'a vu notamment, Frédéric, avec le Covid, c'est quand même bien d'avoir ces infrastructures à soi, que si un jour les autres coupent, nous on aura quand même un peu ces liens.
Difficile de ne voir autre chose qu'une dimension dimension politique. L'État n'a pas a priori vocation à tirer des câbles sous-marins. Hein. C'est pas, c'est une activité, c'est un business, un très grand
bon business. France Télécom de la grande
d'ailleurs,
époque.
D'ailleurs, un excellent investissement de Bercy. Hein, vous l'avez dit, 100 millions d'euros d'investissement. Une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, qui a doublé son activité depuis l'avant-Covid. Donc, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. La dimension politique, elle est flagrante. On est là à quelques jours d'une élection législative importante. Alors, tu parlais du Kaatos. Le Kaatos, c'est intéressant, mais c'est une entreprise qui est en pleine déroute. Mm-hmm. L'État, c'est vrai, a sécurisé, à hauteur, je crois, de 700 millions d'euros, toutes les activités cybersécurité, contrats militaires, supercalculateurs.
Gestion des centrales nucléaires.
Pour éviter que, voilà, qu'il y ait un prédateur extérieur qui vienne s'emparer de cette activité. Là, c'était pas le cas. C'est une entreprise qui se portait bien. Alors que Nokia voulait céder parce que Nokia a besoin de cash. Il vient de perdre un gros contrat, je crois que tu le disais, aux États-Unis sur les équipements télécom.
Contre Ericsson.
Mais malgré tout, normalement, dans une période peut-être plus apaisée sur le plan politique, on aurait pu penser que l'État mette en cheville Nokia pour qu'il le vende, peut-être, oui, pour qu'il l'adosse à un industriel français.
Est-ce que c'est la vocation
de Bercy d'acheter ce genre d'entreprise? A priori, non. Est-ce qu'il va le garder?
C'est l'agence des participations de l'État.
C'est l'agence des participations de l'État, oui,
voilà,
évidemment.
Qui est différent, c'est pas BPI France.
Et puis, c'est une entreprise française, on dit Nokia, mais c'est, je crois que les trois quarts des salariés sont en France.
Oui.
Bon, voilà. Donc, l'État rachète une entreprise française. C'est un très bon investissement, en tout cas, qui est une entreprise qui fonctionne, qui marche bien. C'est un des trois géants mondiaux du secteur. Maintenant, voilà, il y a la dimension politique, on s'affiche, on montre que l'État protège les Français, l'État protège la souveraineté dans le numérique, on l'avait vu dans l'alimentaire aussi il y a quelques années avec Carrefour, il le montre aussi avec Atos sur des questions d'ordre stratégique. Donc voilà, c'est difficile de
et
voir autre chose que ça.
Ça a été reproché à l'État mouvement. D'ailleurs sur le dossier Atos de ne pas être intervenu plus tôt en fait.
Et moi pour le cloud, je trouvais qu'ils auraient peut-être dû être beaucoup plus interventionnés sur la partie cloud en dehors de la partie.
Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment acceptable socialement. En fait, l'État est déjà s'ingère déjà dans pas mal d'aspects économiques du quotidien des Français sur ces aspects qui sont en fait extrêmement compréhensibles. Il y a aucun souci à aller là-dessus. Et tu le disais, là, la solution peut-être de trouver un industriel français aurait pris plus de temps, peut-être le temps manqué.
Ils ont essayé avec Orange, avec Thales, ça s'est pas fait. Alors là, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont le conserver ou est-ce qu'ils vont essayer de l'adosser?
Ça peut s'adosser à un industriel français. En tout cas, maintenant, c'est une option.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas une opération, un gouffre financier qui va nous faire perdre de l'argent. Au contraire, c'est une entreprise qui va bien, qui est rentable et qui effectivement peut se revendre à un prix absolument incroyable.
Et puis, je reviens avec ma technologie WDM, mais qui ont des brevets.
Absolument.
Ils ont un beau capital, beau capital de techno, innovation, R&D, des usines. Enfin voilà, on est vraiment dans un bel exemple de l'État qui s'y met, enfin qui prend les risques. Et puis on verra pour la suite, est-ce que c'est l'État qui va continuer à gérer, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un autre industriel, parce que les Thalès et Orange n'étaient pas intéressés à l'époque. Après voilà, et puis c'est vrai que le contexte politique fait que on est sûr de rien dans les semaines et les mois à venir. Autre sujet, justement des Google traductions, il y en a beaucoup qui ont dû passer sous l'Atlantique là quand on a fait, parce qu'évidemment Google, les GAFA utilisent beaucoup ces fibres optiques, mais là on parle de ce sujet, c'est Google Traduction qui va parler. Alors on le disait un peu sur le ton de l'humour, mais enfin, c'est pas totalement anecdotique, hein. Breton, occitan, centre-tout le créole, il y a des langues africaines, il y a le cantonais aussi, enfin voilà, ça regroupe plusieurs langues. Et ma question était de savoir qu'est-ce qu'il fallait penser de tout ça. Alors, est-ce que c'est une. Alors, il y a évidemment un côté innovation, technologie, Google met en avant sa technologie Palm, qui est un peu le IA Gemini pour la traduction. Après, est-ce que c'est quelque chose aussi pour résister? Parce que quand on regarde ce que fait ChatGPT, aujourd'hui, DeepL,
je pense que Google a pris du retard là-dessus. Ils étaient bien partis. Google Trad, c'est un truc qui a marché plutôt pas mal.
Oui.
Et puis, ils ont vu les progrès d'autres acteurs. Je pense notamment à DeepL qui a fait vraiment des...
On n'avait plus le défaut des Google Traductions qui, parfois, la traduction n'était pas tout à fait...
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui.
DeepL
fonctionne à partir d'un moteur d'intelligence artificielle qui fonctionne bien. Ils analysent des milliers de textes. Ils arrivent à... Et donc, je pense que Google a vu que ça se passait par là. Oui. Et dès qu'ils ont mis au point leur Gemini, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont essayé de l'adapter à leur système de traduction. Alors, c'est bien, ça va leur permettre de reprendre l'initiative dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, maintenant, les gens qui ont des traductions à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ChatGPT. Hein. Oui. Donc, il va falloir forcément entraîner ce Google Trad à avoir de plus en plus d'espace, de plus en plus de clients. Et les clients, ils se recrutent où? Ben, dans les endroits où on parle des langues. Je sais que un quart, je crois, de ces nouvelles langues là, mm-hmm. qu'ils ont mis sur Google Trad sont des langues africaines.
Oui.
Parce qu'effectivement, là-bas, le nombre de par pays, le nombre de langues.
Ah ben, il y a une des langues, elle est parlée par 100 millions de personnes.
Mais c'est oui. comme
on
le foot,
imagine
hein,
le Nigeria.
C'est comme le foot. Maintenant, un des enjeux de diffusion des Coupes du Monde, etc. C'est la traduction exactement. Aussi, les commentateurs en toutes les langues. Pour poursuivre ce que disait Didier, je pense que Google Traduction fait aussi le pari de la quantité face à des nouveaux acteurs comme DeepL qui sont, on le disait, peut-être un peu plus qualitatifs sur certains aspects. Là, Google Traduction, ce sera plus de 130, je crois, langues, mm-hmm. Donc qui donnent la possibilité de traduire. DeepL, on est sur une petite trentaine de langues pour l'instant qu'on peut traduire. Et c'est un service aussi dont une grosse partie est payant. Je crois que vous avez un nombre de textes, enfin de signes, pardon, oui. que vous pouvez traduire gratuitement. Et ensuite, c'est le pari du payant. Donc, je pense que c'est des modèles différents et Google va chercher des parts de marché sur peut-être des zones qui, de toute façon, ne paieraient peut-être pas pour ce type de service et qui ne trouvent que ces langues-là sur Google Traduction. Et je trouve que c'est assez judicieux. Et puis, par ailleurs, je trouve ça quand même bien qu'on mette en avant aussi les différents dialectes, langages,
oui,
spécificités.
Un côté de préservation culturelle.
Exactement, hein, qui est important et qui a peut-être tendance parfois à disparaître cette préservation culturelle avec la technologie, donc c'est plutôt bien.
Oui, d'autant plus que sur la note de blog, ça c'est intéressant, ils expliquent Google qu'ils ne font pas appel qu'à l'intelligence artificielle.
Oui, il y a des linguistes.
Ils ont bossé avec des linguistes, oui. avec des locuteurs de ces langues rares, etc. Donc, il y a une démarche un peu humaniste,
oui.
on va dire.
Et avec un peu universitaire. Et puis, je pense que ça permet aussi, parce qu'ils disent il y a des langues qui ont publié beaucoup de contenu, mais qui n'ont jamais été traduits, et ça peut aussi ramener du contenu davantage oui. pour entraîner encore les IA oui, à d'autres
oui.
sujets.
On va y arriver.
Ça aussi,
oui.
ça va. Oui, enfin, Fred, bien
oui, non, mais Google, moi je pense que Google a, comme tous les GAFAM, une vocation universelle. Ils veulent s'adresser au monde entier. Il n'y a pas un être humain qui ne doit pas utiliser leur service. Et là, c'est vrai qu'ils en manquaient beaucoup quand même. Hein, parce que mine de rien, la somme de ces petites ou pas si petites que ça, d'ailleurs,
110 langues. Langue, hein.
ouais, enfin, le cantonais, c'est pas si petit. Ouais.
Non, ouais. voilà, le cantonais, ouais. le Punjabi, qui est une langue très parlée en au Pakistan, au total, ils estimaient que c'était 660 millions de locuteurs. C'est pas rien quand même. Hein. Mmh. On parle de 8 à 10% de la population mondiale.
Et qui vont pouvoir faire des recherches, entraîner les IA sur leur langue.
Est-ce que ce sont 660 millions de locuteurs ouais. en langue maternelle ou est-ce qu'il y a beaucoup aussi, comme le breton, de langues un peu plus localisées? Mais malgré tout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'aller chercher ce public-là, ben pour Google, qui a cette vocation universelle de s'adresser à la planète entière, ben il faut aller chercher ce qu'on appelle en marketing la long trend, c'est-à-dire mm-hmm. même si c'est eh bien des plus petits publics, eh ben la somme de ces plus petits publics, ça fait quand même beaucoup de monde. Et pour Google, il fallait que ces outils puissent parler cette langue-là. Juste pour répondre à Didier, moi je trouve quand même que Google Trad a fait des progrès en termes de qualité. Par rapport à il y a 5-6 ans, quand on se tapait des documents, quand on les mettait dans Google Trad, c'était cataclysmique. Hein, je me rappelle de textes d'articles de la presse japonaise que j'essayais de lire dans Google Trad, c'était illisible. Aujourd'hui, il y a quand même, alors c'est vrai que sans trop faire de bruit, ils ont quand même amélioré leur algorithme, leur IA a fait des progrès, et donc là, oui, ils vont chercher, évidemment, ils sont archi-leaders, mm-hmm. à ma connaissance, sur le nombre de langues qu'ils vont proposer, parce qu'ils en avaient une 130 plus 110, ça fait 200.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent mettre en place des services aussi à travers ce Google Trad voilà, d'accompagnement, de papiers juridiques, je sais pas, est-ce que ça pourrait être...
Ouais, peut-être papier juridique, ce serait, ouais. Je pense, peut-être l'étape d'après, mm-hmm. quand ce sera plus perfectionné, parce que c'est difficile aussi même d'interpréter, entre guillemets, les différents droits aussi. Après, oui, ça laisse énormément de possibilités de services pour les entreprises, et puis ça ouvre encore plus la découverte du monde, d'autres journaux.
Ça va ouvrir aussi les perspectives des spammers.
Oui. Après, le bureau, on rappelle, hein, c'est quand même un service gratuit proposé par Google. Le nerf de la guerre, c'est la publicité. Et le but, c'est d'attirer le plus grand monde possible sur ces services. Hein,
et avec puis, attendez qu'il y ait millions. Et attendez qu'il y ait la voix par-dessus qui viendra s'ajouter. Et puis
voilà, c'est ça qu'on attend aussi maintenant, savoir si c'est l'IA générative pourra parler breton, occitan, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Punjabi.
Voilà.
En tout cas, West France a testé le service en breton. Et ça semble assez de bonne qualité.
200 000 personnes intéressées par le breton, hein, donc je confirme. Alors, autre sujet. Greenwashing chez les GAFAM. C'est vrai que là, coup sur coup, on a deux annonces. On a l'écran zéro consommation. Je crois que c'est toi, Didier, qui l'avais repéré de Samsung. Est-ce que c'est une vraie innovation, une petite arnaque? Et puis, il y a l'UE qui reprend un peu le côté les Apple Watch, notre en carbone. Il monte un gros point d'interrogation en disant, mais qu'est-ce que vous nous racontez là, Didier, sur le...
Oui. C'est tout le monde connaît cette histoire où vous achetez un dentifrice à la menthe bio et vous êtes tout content parce que vous pensez que votre dentifrice c'est bio et en fait c'est la menthe qui est bio. Oui. Et la menthe elle est 0,01% du composant total du dentifrice. Mais on a un peu le même phénomène dans la tech, c'est-à-dire que il y a des grosses étiquettes qui disent 100% recyclé, machin, truc muche. Et en fait 100% recyclé c'est le boîtier autour. Mm-hmm. Mais tout ce qui est à l'intérieur c'est des terres rares, c'est des trucs, etc. Donc l'Union européenne a vu ça et s'est dit maintenant ça commence à bien faire. Il y a des allégations écologique, de respect de l'environnement qui ne sont absolument pas légitimes. D'autant plus que souvent l'autre phénomène qui arrive, c'est qu'on se base uniquement sur des prétentions marketing qui ne sont absolument pas prouvées. Alors, on a des grosses étiquettes, des gros logos, etc.
D'autant plus que les acheteurs, ils font de plus en plus attention. Ouais. Donc parfois, s'ils sont bernés, ils sont embarqués
et puis,
dans un produit qui ne correspond pas à ce qu'il...
Il y a une confusion. On parle souvent c'est pas le bilan carbone. Je cherche le nom. C'est l'équivalent carbone.
Les gaz à effet de serre.
Les industriels expliquent qu'ils peuvent vendre des produits hyper polluants, mais ils ont planté 10 arbres à côté. Oui. Donc voilà, ça, c'est la compensation.
La compensation.
Donc l'Union européenne a dit maintenant ça commence à bien faire. Donc, vous n'avez plus le droit de dire que votre produit est écolo si c'est juste de la compensation carbone parce que vous avez planté 10 arbres. Et deux, vous devez respecter les normes écologiques certifiées. Vous ne mettez pas n'importe quel logo de n'importe quelle entreprise qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde se vante d'avoir une bonne empreinte carbone, un bilan carbone exceptionnel, etc. L'écran Samsung, c'est un bon exemple.
Oui.
Il est présenté comme un écran zéro consommation. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la technologie e-ink, cette technologie que tout le monde connaît, hein, qu'on utilise sur les liseuses.
Oui.
Là, ils ont trouvé une technologie qui leur permet de faire un affichage en couleur. Donc, ce sont des grands écrans qui servent en fait de panneaux d'affichage pour des publicités ou de l'information en magasin. Donc, l'image est statique, c'est pas un écran de télé ni un moniteur informatique. Donc, ça consomme effectivement 0,0%, mais là encore... Le bilan carbone, il s'arrête pas à la consommation du produit.
Son cycle de vie.
Voilà, on est allé chercher des terres, des minerais, on est allé fabriquer des matériaux. Il y a eu de l'importation par des cargos, des machins, des trucs. Enfin, là-bas. Donc.
Mais pour ces produits, un chiffre de l'ADEME, les trois quarts en fait de l'empreinte carbone de ces gadgets sont dans la phase des fabrications.
Exactement.
Mm-hmm. Donc tout le reste, même si on vous dit, et puis en plus, je pense que l'autre réflexion pour compléter ce que tu disais. À se faire, c'est qu'est-ce que ça vient remplacer ? Parce que là, l'écran Samsung, ils le vendent comme on le remplace un petit affichage publicitaire dans un magasin. Mais quelle est vraiment l'utilité à aller ajouter du numérique ?
Oui.
Certes, qu'ils disent qu'ils consomment peu, mais
ça permet de changer l'affichage des prix, les soldes, des trucs comme ça, par exemple.
Ouais, mais bon, je trouve qu'il y a vraiment cette question de l'utilité à se poser par rapport à des affichettes qui, de fait, consomment moins. Enfin, je trouve qu'on tend assez facilement à choisir la solution du numérique parce que c'est un peu plus simple, parce que ce sera peut-être plus rapide, mais il y a beaucoup ça, je pense, à se poser. Il y a le réflexe aussi consommateur, le réflexe entreprise sur des gadgets, parce que là on parle quand même de gadgets, on parle pas d'outils essentiels pour le travail. Mais ce que tu disais aussi par rapport à la réglementation européenne, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en France ça existe déjà. On a été assez avant-gardiste. Oui, la la France autour de la transparence publicitaire. Et ça fait, je crois, je ne veux pas me tromper, mais je crois que ça fait depuis 2022 que ces règles européennes existent en France et qu'on voit de moins en moins du coup de messages publicitaires trompeurs, parce que maintenant l'entreprise est obligée de faire un audit et de prouver vraiment de façon très très factuelle que ce qu'elle raconte est vrai, et tant mieux.
Oui, non, enfin, cela étant, les publicités Twitter, Facebook, etc., les publicités en ligne, elles ne respectent pas toujours les normes françaises.
Ah, c'est vrai, oui.
Après, Fred Bianchi.
Non, sur l'écran de Samsung, oui, effectivement. Alors, si c'était pour remplacer les immenses écrans qu'on voit dans le métro, dans les magasins, très bien, parce que là, ils sont archi consommateurs. Hein. J'ai vu qu'ils consommaient 20 000 kWh pour 10 ans, c'est-à-dire l'équivalent, et puis c'est à peu près
on les éteint jamais,
ils tournent 18 heures par jour. 20 000 kWh sur 10 ans, c'est la consommation d'une famille de 4 personnes dans 120 mètres carrés pendant un an. C'est quand même, sauf qu'ils remplaceront jamais ces écrans-là. Ils vont remplacer les posters parce que on peut pas afficher de vidéos. Or, sur ces écrans-là, il y a que des vidéos. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est voilà, c'est pour enlever des posters et mettre ces écrans-là avec tout le process de fabrication qui lui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ça sert à rien. En revanche, sur la question de la réglementation. Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors oui, effectivement, il faut lutter contre les abus de greenwashing de compensation. Mais est-ce que ça peut pas un peu orienter aussi les consommateurs ? Parce que si tous les produits d'un rayon sont mis sur le même point pied d'égalité, moi, je préfère quand même, malgré tout, acheter un téléphone où l'entreprise va planter 10 arbres derrière, plutôt qu'acheter un téléphone où l'entreprise plantera même pas ces 10 arbres. Donc, il y a peut-être d'autres moyens de communiquer.
Ça ne t'empêchera pas d'acheter celui de l'entreprise avec les 10 arbres, simplement.
Oui, mais il faut le savoir.
Il y aura le logo. Le logo sera pas le logo 100% écolo, bilan carbone, etc. Ça sera, j'ai planté 10 arbres.
Oui.
Donc, il faut informer le consommateur.
C'est la dimension neutre en carbone qui est sans doute fallacieuse, parce qu'effectivement, on sait pas si les 10 arbres, quand est-ce qu'ils seront plantés, est-ce que ils aspireront autant de CO2 que les marques le disent. En tout cas, il faut quand même que les marques qui font un peu mieux, le consommateur puisse être informé, parce que c'est la seule information qu'on a. Les consommateurs, ils ne vont pas aller sur Internet pour savoir si Apple émet de CO2. Il faut en magasin qu'il ait un minimum d'informations, la plus honnête possible, mais il faut qu'il ait un minimum d'informations. Si une marque fait un peu mieux que les autres.
Dans l'univers entreprise, hein, il y a tout ce qui est la norme CSRD là, qui va arriver. Il faut justifier qu'on respecte les enjeux environnementaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est un critère d'achat. Et ils sont même poussés par leurs utilisateurs pour dire nous, on veut des choses un peu plus, entre guillemets, green. Alors après, il y a aussi.
Les normes dont parlait Didier, est-ce que le consommateur les connaît toutes ? Est-ce qu'il sait de quoi il les retourne ? C'est vrai qu'un terme simple comme neutre en carbone, même s'il est faux, bon, il indique. Alors, il faudra peut-être trouver des moyens d'indiquer que moi, entreprise, je fais un peu d'effort, je plante 10 arbres, alors que l'entreprise Z qui est à côté de moi, elle s'en bat même pas.
Elle n'aura pas son logo,
aucun logo.
Allez, eh bien, nous, ce ne sont pas des arbres qu'on va planter, c'est le journal de l'écho là, qu'on va planter là devant nous, avec pas mal d'infos aussi. On va vous se retrouver juste après. On a encore une bonne demi-heure de débrief, et puis ensuite, on se retrouvera pour la dernière demi-heure où on parlera des écrans. Des téléphones à écran pliable chez Motorola et puis d'un avion électrique. Donc vous voyez, on est toujours dans ce côté enjeux environnementaux. Allez, tout de suite, le journal de l'écho.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on est reparti pour une demi-heure de débrief avec nos experts, Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, Claudia Cohen, journaliste au Figaro, et Didier Sange, journaliste tech. On a parlé, si vous avez raté le début, des câbles sous-marins. On est revenu sur Google qui avait lancé 100 nouvelles langues de la traduction. Et puis, ce côté greenwashing un peu des big tech en ce moment. Est-ce qu'il faut être un peu plus sévère avec eux? Et puis là, on va parler d'Amazon. Mais avant de vous passer la parole, mes chers débriefeurs, la parole est à Étienne Braque. Bonsoir.
Bonsoir
Étienne.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Amazon vient d'entrer dans ce club très fermé des capitalisations. Alors non pas à plus de 3000 milliards, parce que là il est encore plus fermé, ils sont que 2 ou 3 à y être inscrits, mais dans celui des capitalisations de plus de 2000 milliards.
Et la course à l'intelligence artificielle qui continue de faire bondir Wall Street avec en effet désormais Amazon qui rejoint le club très fermé des 2000 milliards. Là vous avez les 5 valeurs qui sont au-dessus des 2000 milliards, dont 3 qui sont au-delà des 3000 milliards. Leur particularité, c'est qu'ils sont présents dans l'intelligence artificielle, Microsoft avec Azure, Apple, on l'a vu ces derniers jours, a connu un record historique grâce notamment aux annonces et l'arrivée de ChatGPT dans ses iPhones, Nvidia bien sûr, qui a connu le parcours le plus spectaculaire à Wall Street, quand Alphabet, la maison mère de Google, également avance ses pions dans l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'Amazon, on en parle beaucoup par rapport à leur place de marché, mais moins par rapport aux activités cloud, Amazon Web Services, qui est eh bien, un petit peu la vache à lait du groupe, hein, dans le sens où c'est une marge opérationnelle de plus de 36% au premier trimestre pour cette activité cloud, contre 24% l'année dernière, une dynamique qui devrait se poursuivre selon le consensus. L'IA a besoin de beaucoup de stockage, ça tombe bien, Amazon sait le faire, puisque c'est tout simplement le leader mondial dans les activités de cloud, avec une part de marché de plus de 30%, devant Microsoft, qui certes avance ses pions avec Azure, mais vous avez quand même un écart important entre ces deux acteurs. Et puis ensuite, en troisième position, loin derrière, vous avez Google, qui a un petit peu plus de 11% de part de marché au quatrième trimestre. C'est en tout cas les derniers chiffres recensés. Et puis, cerise sur le gâteau, l'activité e-commerce, qui a été pendant des années en perte, eh ben, au premier trimestre, elle a gagné de l'argent. Et ça, ça devrait se poursuivre grâce notamment à des gros gains de productivité, des économies. Donc tout ça devrait eh bien, permettre également au groupe de continuer d'avancer dans son activité de e-commerce, d'autant plus que les informations de The Information affirment que Amazon devrait lancer dans les prochains mois un site un peu plus low cost afin de concurrencer Alibaba et puis surtout Temu.
Merci Étienne Roac pour ces précisions donc autour d'Amazon. Alors évidemment Amazon on est dans l'immense hein, à la fois la plateforme de e-commerce et puis notamment cette immense partie AWS hein, Amazon Web Services qui concerne le cloud. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là, de ces 2000 milliards? Je démarre avec toi Claudia.
Que Jeff Bezos est un très bon vendeur aussi. Là il était à Washington, il a fait une petite tournée à Washington pour essayer de convaincre à la fois les services publics, aussi quelques organisations non gouvernementales de se mettre à l'IA générative. Il essaye évidemment face à Google, face à Microsoft.
Ils investissent dans Anthropique hein, beaucoup. Hein,
c'est... Oui, non, oui. De se positionner sur ces marchés. Et après aussi, un mot peut-être qui n'a pas été dit, plus globalement, Amazon sur la stratégie publicitaire, ce qui marche du feu de Dieu en ce moment, c'est ce qu'on va appeler le retail média, c'est les investissements sur les espaces e-commerce en gros. Et en fait, Amazon est absolument leader là-dessus, après Walmart. Et de plus en plus, les investissements, dont certains qui étaient sur les réseaux, se déplacent vers ce type de publicité. Amazon capte énormément d'argent là-dessus. Avant, on se rappelle, il y a à peine 5 ans, les revenus publicitaires d'Amazon, c'était dans les lignes autres. C'est-à-dire qu'on ne les comptait même pas. Ouais. Maintenant, ça existe, c'est présent et ça ne fait que grimper.
Les bénéfices venaient d'ailleurs beaucoup de la division AWS. Hein. C'était ça qui a entraîné...
Donc là, sur différents corps de leur business, ils sont extrêmement bien positionnés et aussi, je pense que le rôle quand même du fondateur reste très important aussi.
Oui, même s'il a passé la main à Andy Jassy depuis quelques années, mais il est toujours quand même bien présent. Fabien, oui. qui lui suit Amazon depuis...
J'ai connu Amazon avant lui. Amazon, il y a encore un an ou deux, on se disait où est-ce qu'ils en sont finalement dans tout ça. Il y avait OpenAI qui arrivait, eux, ils avaient un peu de retard, le e-commerce, bon, était pas florissant, ils avaient supprimé un certain nombre de postes parce qu'ils avaient eu des difficultés dans l'après-Covid. Puis là, on s'aperçoit que finalement, depuis un an, Andy Jassy...
Je t'interromps, AWS, grosse compétition quand même. Il y a Azure et Microsoft.
Il y a encore GCP, deux ans, je crois qu'Azure était même passé sur certains trimestres devant AWS. Hein, Microsoft avait dépassé Amazon sur le cloud, alors qu'Amazon était leader avant. Puis finalement, on s'aperçoit que petit à petit, les briques posées par Andy Jassy commencent un peu à faire un peu système. On parlait de l'IA, mais Amazon a investi quand même 4 milliards d'euros dans une des startups les plus prometteuses du secteur, hein, Anthropique. Ils développent leur propre langage, leur propre outil d'IA générative qui s'appelle Q en interne. Il y a la publicité dont parlait Claudia, je crois que sur Amazon Prime Video. Alors ça nous embête de voir ces pubs, hein. ça me hérisse, mais en attendant ça fonctionne semble-t-il assez bien parce que je crois qu'il y a des projections de banques assez sérieuses qui disent que Amazon devrait générer 5 milliards de dollars de revenus avec ses pubs, juste ses rôles au début de la vidéo. Amazon Web Services, donc en croissance de 17% au-delà des prévisions du marché. Le cloud, qui est quand même un peu à la manière d'NVIDIA, une des briques fondamentales de l'IA générative.
Ils ont leurs composants aussi, ils sont comme les autres.
Ils ont aussi leurs composants. Ils commencent à gagner de l'argent dans le e-commerce après en avoir perdu pendant quasiment 30 ans. Donc tout ça fait que qu'Amazon finalement atteigne 2000 milliards de capitalisation boursière. J'ai même envie de vous dire que c'est pas assez. Je pense qu'il pourrait être encore plus. Alors ils ont progressé quand même de 50% en un an, mais je pense que voilà, le rallye n'est pas terminé pour Amazon parce qu'ils sont pas finalement plus mal placés qu'Apple. Alors peut-être un peu moins bien que Microsoft, encore que ça se discute, dans les révolutions tech qui arrivent et qui vont transformer le marché les 10 prochaines années.
Les révolutions tech, alors si vous nous regardez en télévision, vous voyez ces impressionnants entrepôts, parce qu'évidemment c'est les plateformes d'e-commerce, mais ça dit derrière quoi? C'est de la logistique, et puis derrière toute l'innovation qu'on met dedans, notamment de la robotique. François Sorel et Léa Benaim étaient allés il y a quelques mois chez Amazon aux États-Unis pour voir la mise en place de tous ces robots, c'est assez impressionnant.
C'est impressionnant.
Didier?
Alors moi je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Simplement, enfin, on attendait Amazon dans ce club parce que les autres y sont.
On était un peu surpris de. Moi, quand j'ai vu la première, je me suis dit, ah bon, mais ils ne seront pas. Ah oui,
voilà,
ils sont
absolument. On est plus surpris d'apprendre qu'ils y sont que. Voilà. Mais comme on discutait avec Claudia tout à l'heure, c'est que l'histoire de. En fait, c'est intéressant parce que Meta a disparu de ce groupe.
Oui.
Et Nvidia y est arrivé, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la donne a changé avec cette histoire d'intelligence artificielle. Et si Amazon fait d'aussi bons résultats, c'est en grande partie à cause de ça. Même si ces services AWS, tous ces services cloud, ont connu un boost avec l'histoire du streaming, avec Netflix et compagnie. Enfin, il fallait quand même avoir des gros serveurs pour stocker tout ça. On peut dire que là, Jeff Bezos peut remercier les besoins phénoménaux en serveurs de l'intelligence artificielle.
C'est intéressant ce que dit Didier par rapport à Meta. Notamment.
C'est toujours intéressant ce que
Meta,
dit Didier.
Toujours intéressant, mais alors là encore plus que d'habitude. Non, Meta, combien ils ont dépensé dans le métaverse, dans la réalité virtuelle depuis 2 ans? Ils auraient mis 1/10, alors c'est évidemment 1 dollar dans le métaverse, c'est pas équivalent d'un dollar, voilà. Ils avaient peut-être pas les compétences en interne, ils avaient peut-être pas les expertises, mais ils auraient racheté des startups, ils auraient investi dans des Anthropic ou dans des boîtes comme ça, plutôt que de dépenser, je crois que c'était 10 milliards par trimestre à un moment où ils dépensaient dans leur métaverse, dans leur casque qui se sont jamais vraiment vendus. Enfin, ça reste des produits de niche, tout ça. Moi, je pense que là, Mark Zuckerberg a raté le coche et a démontré qu'il était peut-être pas aussi un aussi brillant patron que ceux de Microsoft et d'Amazon.
Je n'enterrerai pas si vite. Il ne faut pas oublier non plus ce que jugent en général quand même les investisseurs, c'est les résultats aussi quand même à très court terme. Et tu le disais, il y a eu des dépenses stratosphériques de Meta qui a toujours dit qu'ils espéraient voir des résultats à ces dépenses dans X années, sauf qu'en bourse, on n'a pas le temps. Donc on voit Meta qui ne produit pas immédiatement des résultats alors que ses concurrents, c'est le cas. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir dans 2, dans 3, voire dans 4 ans des choses absolument extraordinaires se développer chez Meta, et pour le coup des choses sur lesquelles ils ont investi, on se moquait d'eux à l'époque, et sur lesquelles le reste n'a pas investi, puisque ça les empêche pas non plus à Meta d'être quand même présent aussi sur l'aspect IA.
Ils sont toujours là, quoi. C'est
ils
vrai
sont
à un
là,
moment
oui.
Ils ont raté le virage du mobile, finalement ils sont repartis, ouais. Alors le métaverse, il a su rebondir, et puis le métaverse n'est pas fini, donc on verra un peu cette compétition avec Meta.
Ils ont eu moins de nez. On rappelle qu'AWS, c'est vrai que ça peut surprendre. Pourquoi Amazon, qui vend des livres, des robots ménagers, pourquoi ils sont leaders du cloud? C'est vrai que ça peut être surprenant. Et parce que, c'est un coup de chance, en fait, de Jeff Bezos. À l'origine, ils avaient investi dans des serveurs, justement, pour faire tourner leur site e-commerce. Et ils se sont aperçus l'été que les gens achetaient moins de produits par rapport à Noël ou par rapport à des saisons plus florissantes. Et Jeff Bezos s'est dit, ces serveurs, qu'est-ce qu'on en fait? On va les louer à des entreprises pour qu'ils puissent stocker leurs données là-dessus, et c'est comme ça qu'est né AWS sur un peu de hasard.
Pour la petite histoire, j'avais interviewé le patron de l'innovation qui était venu présenter ça à Jeff Bezos en disant on devrait louer nos serveurs. Jeff Bezos dit commencez à les louer.
Pourquoi faire?
Puis voilà, il avait expliqué tout ça. Mais en plus, là où ils sont, où ils ont eu en plus cette intelligence, et on va parler de VH Cloud dans un instant, qui essaie de monter aussi, c'est qu'ils sont pas restés juste sur la partie infrastructure. Ils sont montés dans les couches, et pour proposer tout un tas de services. Alors, au niveau des développeurs, au niveau des entreprises, ils proposent, quand vous discutez avec des DSI, qui vous parle de tous les services qui sont en place pour, on peut tout faire, quoi. Et puis on déclenche ça, hop, on, alors il faut quand même c'est payer. On paye, une fois que c'est payé, on enclenche comme sur notre smartphone, là, on met le petit truc sur vert et tout, on a accès à tout un tas de services. Quand on n'en a plus besoin, on désenclenche. Et là, c'est vrai qu'ils sont assez puissants. Un mot, je voulais rester sur Amazon, qui s'attaque à Temu et à Shein, là, donc ces plateformes chinoises, et qui veut aussi se lancer dans le low cost, c'est ça? Alors qui est,
oui, ils veulent lancer une vitrine cheap, on va dire, sur leur site, avec des produits qui seraient tous dans la déco, dans la mode, des trucs pour la maison, qui seraient tous à moins de $20 sur des prix très très bas. Et en fait, ce qu'ils proposent pour attirer les fabricants chinois qui produisent ces produits, c'est en fait qu'ils puissent les livrer directement eux, c'est-à-dire que, que ces produits n'aient pas à passer par les entrepôts d'Amazon. Et donc en vous faites une vente directe, ce qui fait gagner du temps. Ils promettent 9 jours grand maximum de délai, et ensuite Amazon aussi, pour garantir des prix extrêmement bas, réduit drastiquement sa commission. Je crois qu'il passerait de 17%
à 5%. Mais du coup, ils s'en fichent de toute la polémique là qu'on a autour de ces sites.
C'est ça que j'allais dire, il y a quand même vraiment un enjeu de réputation. Moi, j'ai beaucoup écrit sur Temu, sur Shein, etc. Et c'est vrai que même si Amazon à la base avait quand même aussi un business model qui était très critiqué, parce qu'on parle
combien d'entre nous on s'est tous fait avoir, hein, acheter des produits sur Amazon, c'était moins cher. Le jour où ils arrivent, ah oui tiens,
ils sont pas géniaux, le coût pour l'environnement est quand même énorme. À la base, c'est le business model d'Amazon qui était critiquable écologiquement parlant, mais quand vous voyez des acteurs comme Temu et Shein arriver, à mon sens Amazon retrouvait certaines lettres de noblesse, parce que la compétition est devenue pire en fait. Et là, d'aller s'insérer dans ce truc, parce qu'il faut dire déjà, au-delà d'être critiquable, il y a aussi des gouvernements, notamment le gouvernement français qui se révolte par rapport à ces types de business model. Il y a eu un vote en France pour une taxe sur ces sites en fait, qui vendent des produits d'extrêmement mauvaise qualité et à très bas coût. Je pense qu'il y aura peut-être ce même type de réflexion dans d'autres pays que la France. Donc c'est un pari. Je ne sais pas si c'est un pari risqué, parce que je ne pense pas que ça coûte extrêmement cher pour Amazon. Et en fait, si j'étais au niveau business, je me dis pourquoi pas, essayer.
En plus l'équation, l'équation carbone, avec des produits achetés peu cher, très peu portés finalement, parce qu'une fois qu'on les lave trois fois, ça, et qui se retrouvent dans les déchets, et là on repart dans une autre chaîne déchets textiles.
Fred, moi je sais pas si Amazon fait ça pour vraiment générer un nouveau business, ou si c'est aussi pour faire un clin d'œil à la Chine, parce qu'Amazon veut s'implanter en Chine. Ils investissent en Chine aussi. Amazon, c'est pas grand chose en Chine. Amazon aujourd'hui, c'est
Alibaba,
est présent dans très peu de pays finalement, c'est principalement des pays occidentaux. Alibaba, donc il va vraiment s'imposer.
Le deuxième, c'est
s'imposer en Chine.
Deux grands. Il y a Alibaba et son
Alibaba.
C'était. Ils savent de revenir.
Ça m'échappe.
Soufflez-le nous.
Et après, la question morale autour de la question environnementale. Moi, je veux bien, mais Temu, Shein, et ça cartonne. Alors, je veux bien qu'il y ait des articles dans la presse qui critiquent leur modèle de développement, leur impact environnemental, mais attends, les gens achètent.
Mais ça commence comme ça, et derrière, il y a le réveil politique, et derrière la régulation, et derrière l'interdiction.
Peut-être, mais Amazon a eu une très mauvaise presse en France, et continue certainement d'en avoir pendant des années. Ça leur a pas empêché de se développer. Alors oui, il y a le cas Wish, par exemple, qui a dû, voilà. Mais Shein, Temu, moi, tous les jours, j'entends dire des horreurs sur ces trucs-là, et certainement à juste titre. Attendant, les gens achètent beaucoup. Et Amazon, l'idée, c'est de disrupter, je crois, un petit peu, parce que le problème de ces sites-là, il faut le dire, c'est que les temps de livraison sont très longs.
C'est 11 jours minimum, c'est ça, non?
Ouais. Amazon veut accélérer, en passant par sa chaîne logistique, ils veulent accélérer le processus. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus? Parce que les marges doivent être très faibles sur ces produits-là, quand même, à moins de...
Changeons un peu de sujet, parce que j'aimerais bien qu'on termine par les chercheurs japonais qui ont greffé une peau organique là, sur un visage de robot. On va y venir dans un instant. Et rien que les images, comme le disait l'un de mes prédécesseurs ici même, bon appétit si vous êtes à table, quand vous verrez cette vidéo. Juste un mot sur les bons résultats d'OVH Cloud. Je sais pas, Didier...
Claudia.
Sur OVH Cloud.
Oui parce que plutôt des bons 10% de croissance sur le trimestre, des revenus en hausse, hausse du revenu par client, une croissance aux États-Unis qui s'établit, qui est plutôt bonne. Alors, on n'est pas
on n'est pas sur les hyperscalers, ça fait la différence. On n'est pas sur des hyperscalers, on est sur des propositions de prix qui sont plus accessibles. C'est ce qui market aussi au OVH Cloud. Et il faut aussi rappeler, ce qui market, c'est le côté, on parlait de souveraineté tout à l'heure, là on peut en parler aussi. De côté, on propose des services aux entreprises et on est capable de garantir que il y aura une sécurité des données et que dans aucun cas il y aura comment on appelle ça, l'extraterritorialité, oui, des données, des questions quand même qui peuvent inquiéter quelques entreprises. Et il faut saluer quand même le travail d'OVH Cloud qui petit à petit, voilà, l'année dernière il y a eu, je crois que c'était l'année dernière où il y a eu des pertes, là il remonte la pente. Il y a quand même un énorme marché, on le disait tout à l'heure, avec l'IA, sur lequel on aura besoin de plusieurs acteurs. Il n'y aura pas que les gros qui pourront prendre des parts de marché. Donc voilà.
Avec acteurs aussi très innovants. Hein. On sait que, alors sous l'impulsion évidemment d'Octave Klaba, son fondateur, mais il y a Michel... décidément, on a du mal avec les noms ce soir. Michel Paulin, voilà.
Oui, Michel Paulin. Le
directeur général qui fait pas mal, un très bon boulot aussi derrière tout ça. Ils sont en train de monter en gamme aussi. Hein. Oui. Alors, moins vite, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut convaincre aussi, ils ont un peu plus de mal à convaincre les clients, hein, qui souvent s'assurent un peu comme à la grande époque. Je prends pas de risque, je vais chez Microsoft. Ben là, c'est vrai, beaucoup d'entreprises, je prends pas de risque, je vais chez Google, Azure ou Amazon. Là, voilà, il y a des choses qui commence à être faite. Ils ont aussi les normes, les Secnum Cloud, enfin voilà, ils ont tout ce genre de choses. Fred, oui, c'est quand même à saluer.
Ils mènent leur petit bonhomme de chemin plutôt bien. Alors c'est vrai que l'année dernière a été très mauvaise, ils ont quand même beaucoup perdu en bourse. Là aujourd'hui, vu les bons résultats, meilleurs qu'attendus, en bourse, la bourse
c'est plus 15%,
c'est plus 15% aujourd'hui, donc c'est très bien. Ils ont c'est une niche, hein. On a vu tout à l'heure les graphiques avec 32% pour Amazon, 28%. On n'est pas là avec OVH et on sera sans doute jamais là. Mais ils ont pris leur niche. Alors sans doute sur le low cost, hein. Ils sont moins chers que ses grands concurrents. Moi, je pense à Atos quand même quand je vois le succès d'OVH et je me dis, OVH a mis le paquet sur le cloud public. Pourquoi Atos n'est pas allé? Pourquoi Atos n'a même pas racheté OVH? C'est quand le succès d'OVH, c'est aussi un peu l'échec d'Atos qui n'a pas pu, alors qui n'aurait peut-être pas pu le faire à l'époque, hein, à l'époque de Thierry Breton, c'était peut-être pas possible. Mais c'est vrai que dans les années 2010-2012, quand il a fallu prendre ce pli, plutôt que de rester sur le cloud privé qui était un peu la vache à lait d'Atos, eh bien, on voit que, il y a des pépites françaises qui se sont engouffrées là-dessus, sans même parler des géants comme Amazon, hein, parce qu'il y a, en 2010, Amazon, c'était pas grand-chose le cloud non plus, hein, au moment où Atos aurait pu tourner.
C'est vrai que j'ai regardé leurs chiffres. Au niveau cloud public, ça marche plutôt pas mal. Au niveau cloud privé
aussi,
ils arrivent à augmenter, c'est-à-dire sur un même client. Sur un même client, on arrive à lui vendre un peu plus de services. Et ça, c'est tout à l'honneur justement de l'équipe dirigeante qui est vraiment en train de monter en gamme. Donc nous, on a toujours. Alors on leur a mis quelques coups sur les doigts quand il le fallait, mais on salue aussi toujours leur réussite. Et puis le fait quand même que ça fait partie de nos acteurs français, européens. Il a en ce moment qui marche plutôt bien aux États-Unis. Donc saluons en tout cas ce bon trimestre d'OVH Cloud. On espère qu'on repart dans une dynamique très positive. Surtout qu'on voit en France l'histoire des data centers, tout ça est en train d'évoluer. On voit qu'Iliad cherche à se séparer de ces data centers. SFR, donc qui appartient à Altice comme BFM Business, eh bien, on est en train d'être racheté par CMACGM. Bon, on était dans cette maison-là. SFR, mais ça c'est un autre sujet. SFR a revendu ses data centers. Donc on voit quand même que le business model n'est pas forcément évident.
Juste une rectification, j'ai dit 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était sur le dernier trimestre. Oui. C'est-à-dire qu'OVH est en passe de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en annuel, si on continue, et certainement on va continuer sur les taux de croissance comme ça. Donc c'est une entreprise
plus que les prévisions.
Voilà, une entreprise qui va devenir milliardaire dans la tech, et on n'en a pas tant que ça en France.
Allez, on attaque ce dernier sujet, des chercheurs japonais qui greffent une peau organique sur un visage de robot. Alors là, je vous conseille de regarder, si vous nous écoutez en radio, basculer en télévision, parce que...
Ou l'inverse.
Ou l'inverse, si vous avez un peu peur d'avoir mal au cœur. C'est vrai, tu as raison de le préciser, Didier. Alors, qui veut démarrer, Didier,
sur c'est une expérimentation qu'ont fait des chercheurs japonais. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est pas seulement d'avoir créé ce tissu qui reproduit un peu le tissu humain. Là, on voit je ne sais pas si les gens peuvent voir les images, mais en fait tout le challenge c'était de faire en sorte que cette peau soit bien maintenue par la surface métallique du robot, de manière à ce qu'elle puisse adopter différentes expressions.
Oui, comme un visage.
Un visage, et donc toute l'idée, c'était de savoir... ils ont utilisé des espèces de micro-collages qui leur permet de simuler les zygomatiques, les machins,
oui,
les
trucs. Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on c'est déjà arrivé de faire une peau artificielle, mais voilà, c'est tout à fait lisse.
Voilà.
On voit juste s'il sourit ou il parle, ça bouge un peu, mais voilà.
Voilà, donc là, l'idée, c'était de voir comment ça marchait. Et en plus, il y a un deuxième challenge derrière, c'est que le tissu qu'ils ont utilisé pour créer cette épiderme est un tissu autoréparateur. Donc, ça va leur permettre de tester aussi le fait cette aptitude à s'auto-réparer en cas de problème, si jamais il y a des...
Mais le but, c'est quoi? C'est d'habiller, entre guillemets, d'humaniser un peu ces robots?
Les Japonais, ils sont très, comment dirais-je, omnubilés par l'aspect Android des robots.
Oui.
On le sait, hein, donc tout ce
qui... Ils ont une population vieillissante, avec donc, moins d'aide pour accompagner les
c'est
populations
un peu ça,
âgées.
Leur ambition, c'est de créer des robots humanoïdes crédibles, donc qui seraient capables effectivement d'imiter les expressions humaines pour traduire de la sympathie, de l'écoute, et plaire effectivement à une personne, à une population vieillissante, aux personnes âgées surtout. Maintenant, on n'en est pas là.
Ouais.
Cette démonstration, elle est effectivement un peu...
Elle est expérimentale, voilà.
Elle est expérimentale.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi cette peau organique, elle puisse servir après pour des humains, des...
Oui, je pense que c'est ça, absolument.
Parce qu'il y a les deux axes.
C'est, hein, l'idée, c'est pas de s'arrêter là.
Moi, je la veux pas. Hein.
On verra quand tu seras grand brûlé, si t'as pas le choix.
Non, mais c'est vrai qu'on dirait là. Alors, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent plutôt, c'est on dirait une espèce de blobfish, vous savez,
c'est, oui, c'est ça.
Recouvert de malabar avec les yeux de Bob l'éponge. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de réaliste, mais je crois que c'est surtout un but de recherche scientifique, hein, c'est de savoir un petit peu comment évolue la peau, comment se forment les rides, comment la peau se régénère. C'est plus de la recherche que, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, j'ai pas encore mis
l'article
japonais dans Google Trad, plutôt que d'imaginer recouvrir ça vraiment de vrais robots pour avoir des machines hyper réalistes qui pourront générer de l'empathie. Là, on est quand même très loin d'avoir de l'empathie pour cet objet-là.
Bah, en cinq minutes, on a trouvé trois débouchés quand même, hein, des robots un peu humanoïdes, une peau qui puisse être travaillée, voilà, pour l'utiliser, et puis une peau qui puisse un jour peut-être remplacer.
Il y a une volonté de certaines personnes, notamment de certaines populations en Asie, de rendre vraiment humain l'aspect des robots, et c'est ce vers quoi on tend. Là, on se moque parce que ça paraît peu ubuesque l'essai, mais dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans moins, on arrivera à des résultats. Et quand on sera à ces résultats, il faudra quand même se poser des questions aussi sur quel usage après on va faire de cela. Parce que là, on rigole de ça, mais le jour où ça existera vraiment, est-ce qu'on se sera posé des questions?
On parle beaucoup des parcs de loisirs, souvent, justement, dans les parcs de loisirs, d'avoir des
ces robots. C'est Monde Ouest, c'est ça?
C'est Monde Ouest, voilà, pour la plus ancienne. Parce que je crois qu'ils ont sorti la version en série, je sais pas, elle s'appelait comme ça aussi, la version série, je crois qu'elle avait un autre nom. Mais pour les plus anciens, c'était Monde Ouest.
Westworld,
non?
Westworld. C'est pas la même génération.
Ouais, ouais. Nous, on est la génération, c'est Yul Brynner qui était voilà. Les gens allaient dans des parcs d'attractions, il y avait un environnement western, un environnement château fort, Moyen-Âge, et puis je sais plus quel était l'autre environnement.
Et ils avaient le droit de tuer tout ce qu'ils voulaient parce que c'était des robots.
On se lâchait complètement d'un point de vue sexuel, enfin tout, c'était complètement le délire pour les humains, et un jour les robots se rebellent. Et donc c'est Yul Brynner.
Et tu vois, ce qui est assez fou quand même, c'est que c'est bête à dire, mais c'est vrai, tous les scénarios de science-fiction qu'on nous vend depuis 30, 40 ans, en fait, se réalisent, en tout cas se matérialisent en envie, et demain se matérialiseront en projet extrêmement concret. Et c'est assez fou quand même de se dire aussi à quel point le cinéma, à quel point les livres, la culture étaient, l'imaginaire était tellement en avance.
Les ingénieurs et les inventeurs ne vivent pas en dehors de la société. Ils regardent aussi ces séries, ils lisent aussi ces bouquins, et ça les inspire. Hein,
oui, mais c'est absolument
pour le bien,
pour le mal. C'est fou de se dire ça, parce qu'on dit si souvent, c'est les maths, c'est les ingénieurs qui dirigent. Évidemment, mais quand même, à chaque fois, il y a tous ces créatifs, ces mondes du littéraire, etc., qui représentent des sources d'inspiration.
Mais je trouve que pour l'accompagnement, hier, on parlait de OpenAI qui a retardé un peu la sortie de son chatbot vocal émotionnel, voilà, un chatbot vocal sur le 4, ChatGPT 4o parle, mais il y a pas, voilà, il y a une voix un peu synthétique standard. Ils sont en train de travailler sur quelque chose d'un peu plus émotionnel, et c'est vrai qu'on se retrouve quand même parfois à parler à son, même en clavier, à son PC, à cette intelligence artificielle, tout, de façon assez naturelle, à avoir des conversations, enfin, voilà, sur des échanges pro, tiens, corrige-moi ça, tiens, je voudrais rechercher ça, donne-moi. Et parfois on oublie pas que c'est une machine, mais on s'imagine que ces robots, une fois qu'ils auront un aspect humanoïde, oui, il y aura quelques questions, non,
Frédéric ? Bah oui. Alors moi, déjà, je suis toujours poli avec les chatbots. Je dis toujours merci, bonjour.
Enfin,
une empathie naturelle avec un petit carré. Donc, j'imagine quand ça aura.
Mais Laurence de Villers, éminente chercheuse dans la nuit de l'IA que vous pouvez voir en replay, elle nous a dit c'est mieux de leur demander s'il te plaît, merci. Et c'est vrai que moi, je le fais maintenant et je vois qu'il y a toujours une petite phrase de politesse en plus.
Bah, quand on voit comment on se parle souvent sur les réseaux sociaux entre êtres humains, si on se dit qu'on peut faire un petit effort avec des machines, on en fera peut-être derrière avec des gens à qui on s'adresse sur Twitter ou autre, en disant bonjour, au revoir, merci beaucoup.
Bon, ben, en tout cas, on va suivre cette expérience des Japonais, mais je pense beaucoup, enfin, je reviens pour la première idée de ce que disait Didier, c'est vrai qu'au Japon, en tout cas, des robots aidants, des robots accompagnateurs, avec cet aspect humain, oui, pour accompagner toute la population qui vieillit, avec beaucoup moins de gens pour accompagner dans les services, ben, pourquoi pas, dans les hôpitaux, on commence à voir ça, et c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir quelque chose qui a, enfin, une forme humanoïde ou pas, mais qui a au moins un visage un peu plus expressif. Après, voilà, il faudra s'y habituer aussi. On verra si c'est notre génération ou si c'est celle qui nous suivront. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir été aussi dynamique sur tous ces sujets. Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business, que l'on retrouve tous les jours. Sur quoi en sujet en ce moment?
Beaucoup de politique et de macroéconomie.
On en reparlera.
C'est moins rigolo que
étonnant.
Étonnant. Didier Sange, journaliste tech. Merci encore à toi, Didier. Et Claudia Cohen, journaliste au Figaro. D'ailleurs, une interview à retrouver. Alors, on n'en a pas parlé ce soir parce qu'on en avait déjà parlé avec Jérôme Colombin. Tu as interviewé Jossi.
Joshua Bengo. Oui, sur les risques, les opportunités de l'IA sur le marché du travail.
Voilà, à retrouver évidemment dans le Figaro. Merci à tous les trois. Nous, on reste ensemble dans un instant, le Tech Clash de Léa Benaïm. Et puis ensuite, c'est Motorola qui nous sort de nouveau une nouvelle version de ses smartphones à écran pliant. Et puis, on partira en l'air avec ses avions électriques. Il faut y croire, vous allez voir. Pourquoi il faut y croire? Vous le ferez en restant avec nous. Allez, restez avec nous sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actu tech du jour. Bonsoir Léa Benaïm.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Et à la une, l'État français nationalise ASN, une ancienne filiale d'Alcatel, détenue depuis 2015 par Nokia. Cette société installe des câbles sous-marins via lesquels transite l'Internet mondial. Une acquisition stratégique pour Bercy, 99% du trafic passe par ces câbles. Et la demande pour ces infrastructures explose depuis l'âge d'or du streaming. Ses clients sont les opérateurs télécoms et les GAFAM. Bercy rachète donc 80% du capital de cette entreprise, valorisée 350 millions d'euros. Nouveau contrat pour SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a été choisie par la NASA pour désorbiter l'ISS, ce qui signifie repousser la station spatiale internationale vers la Terre pour la détruire après sa retraite en 2030. SpaceX devra donc fabriquer le vaisseau spatial pour accomplir cette mission. Une manœuvre particulièrement technique avec un contrat pouvant atteindre les 843 millions de dollars. Une IA sera aux commandes sur une chaîne américaine pour commenter les JO de Paris. Il s'agit de la plateforme de streaming Peacock qui appartient à NBC Universal. Concrètement, les abonnés pourront choisir trois sports qui les intéressent et recevoir chaque matin un récap personnalisé avec des images des épreuves et des commentaires audio générés par l'IA. Et cette voix n'a pas été choisie au hasard, elle appartient à un certain Alan Richard Michaels, légendaire commentateur américain et présentateur star de la chaîne NBC. Sceptique au départ, l'homme de 79 ans a finalement donné son accord. Et puis retour en France, payer en sans contact au-delà de 50 euros, c'est désormais possible. Le groupement des cartes bancaires CB lance Sans Contact Plus, une fonctionnalité qui permet de s'affranchir du plafond. L'objectif, concurrencer le paiement sur smartphone. Aujourd'hui, avec Apple Pay et Google Pay, il n'y a aucun plafond de paiement, hormis celui de sa banque. Seule obligation, si vous avez une carte CB, la saisie du code confidentiel restera obligatoire. Et pour finir, rendez-vous demain à midi pour un nouvel épisode de De quoi je me mêle, présenté cette semaine par Anthony Morel. Et cette semaine, on parle de l'histoire des écrans plats, de leur naissance juste à temps pour le mondial de foot, c'était en 98, jusqu'à leur arrêt en 2014. Une émission à retrouver en podcast et en replay sur la chaîne YouTube de Tech & Co et sur le site de BFM Business. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Alors, je me suis penché sur le premier écran plat. C'est la question que je me suis posée. Et le premier semble être un écran plasma. Donc, en 97, présenté par Philips. Il faut savoir que Pioneer a présenté son écran également. Un plasma, on en parle beaucoup moins. C'est beaucoup moins documenté. Mais on est en août 96, au CeBIT d'Hanovre. Présentation au CES 97.
Ça n'existe plus, CeBIT d'Hanovre.
Comment ?
Ça n'existe plus, le CeBIT
d'Hanovre. Non, ça n'existe plus. Non, c'est terminé. Ça fait aussi partie. On parlera peut-être des salons, d'ailleurs, qui ont disparu. Il y en a quelques-uns. On est en 98 quand Philips lance ce premier écran plasma, dont le nom, je te le donnerai tout à l'heure, mais ça dit de, c'est les noms des télévisions. Est toujours un peu étrange.
Oui, parlait dans l'épisode juste avant, voilà. c'est toujours nébuleux.
Donc en 97, Amazon n'a que 2 ans, c'est un bébé entre guillemets, c'est le lancement de la première version de la norme USB en 96. Le Wi-Fi n'existe pas, il est lancé en 97. Ouais. Toi compte, le Wi-Fi. On est le premier iMac, hein, donc l'iMac de la renaissance d'Apple, on va dire. Le Bluetooth arrive en 98 et Google n'existe pas encore.
Oh, voilà. Il y a eu un monde avant Google. C'est comme avant Jésus-Christ, il faudrait compter le monde avant Google.
Voilà, c'est ça.
Voilà, le monde avec Google, c'était De quoi je me mêle, à retrouver évidemment en replay. Allez, tout de suite, eh bien, on va faire un petit tour dans le passé, puis un grand tour dans le futur avec Motorola, c'est tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Notre invité, Pierre-Yves Ortmeyer, bonsoir.
Bonsoir.
Pierre-Yves, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Motorola France et Benelux. Alors, les téléphones Motorola Razr fêtent leurs 20 ans. C'est ça. On fait ce petit bond en arrière. Et puis là, ce soir, vous allez nous parler de la nouvelle version. Alors, c'est la série 50.
La série 50 Ultra.
Pliable. Et pourquoi on faisait aussi un retour dans le passé? C'est parce que le premier à avoir sorti un téléphone pliable, eh bien, c'était les Motorola. Hein, je me demande, c'est Didier Sens qui me rappelait ça. Je crois que l'inventeur de ce modèle s'était inspiré de Star Trek. Hein.
Exactement.
Voilà, il les voyait ouvrir avec leurs montres et tout ça.
Le produit s'appelait StarTac, d'ailleurs, à l'époque.
Oui.
Didier a redécouvert le produit. Effectivement, il trouvait qu'il avait bien changé le StarTac. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui change là dans cette... Alors, ils sont disponibles dès aujourd'hui?
Alors, ils sont disponibles depuis 2 jours. Ils ont été annoncés au grand public il y a 2 jours, à New York.
Une gamme de prix, je commence tout de suite par ça.
C'est ça. Il y a 2 produits. Ouais. Il y a le 50 et le 50 Ultra. Donc, le 50, c'est le produit entre guillemets entrée de gamme à 899 € et le 50 Ultra qui est le produit à 1199 €. Donc 2 produits qui se différencient par la taille d'écran, tous les deux, puisque l'écran extérieur du Ultra fait 4 pouces. Donc c'est vraiment, on a quasi plus besoin de l'ouvrir, ou en tout cas on peut avoir beaucoup d'interactions avec son smartphone sans forcément l'ouvrir complètement. Et donc le Razr 50, donc qui est son petit frère, lui a un écran de 3,6 pouces. Qui était le haut de gamme de l'année dernière, ni plus ni moins.
Et derrière, alors c'est comme vos concurrents, donc l'appareil photo, la rapidité. On commence aussi à parler d'intelligence artificielle aussi à l'intérieur de.
Oui, absolument. C'est un appareil qu'embarque le dernier processeur Snapdragon, qui est très puissant, qui a beaucoup de mémoire, beaucoup de capacité, mais qui est surtout beaucoup plus intelligent que l'année dernière, parce qu'on intègre maintenant 2 types d'intelligence artificielle, une qui s'appelle Moto AI, et on est les premiers à intégrer une intelligence artificielle sur un écran externe avec l'intégration de Gemini directement accessible depuis l'écran extérieur.
Et alors, parce que là aussi on cherche performance en termes de batterie, bon, on trouve que tout ça va beaucoup mieux. Mais alors, qu'est-ce qui est complexe aujourd'hui dans les pliables, hein, évidemment, un des grands acteurs, on ne sait pas s'il y aura un jour, on entend parfois parler, mais on n'a aucune confirmation, c'est évidemment Apple qui n'a jamais sorti de pliable. Mais qu'est-ce qui est, et Samsung qui est évidemment le concurrent important de Motorola dans ce domaine, qu'est-ce qui est compliqué dans la partie
Ce qui est compliqué dans un pliable, c'est...
Au-delà de l'écran, évidemment.
C'est la charnière. Hein, ouais. Donc elle est très compliquée à développer, il faut qu'elle soit agréable. Donc en l'occurrence, la charnière de produit, c'est une charnière en fait qui assiste l'ouverture qui est très agréable, et ce qui est compliqué c'est de protéger ce produit. Et donc pour la première fois ces produits sont IPX8, mm-hmm. c'est-à-dire que ce produit-là on peut l'immerger dans l'eau pendant 30 minutes et le ressortir et il fonctionne comme s'il sortait de la boîte. Donc c'est vraiment ce côté protection et durabilité qui a été très important dans le développement de ces produits.
Vous parliez justement Pierre-Yves du Snapdragon de Qualcomm, alors voilà la dernière version. Vous regardez, enfin j'imagine chez Motorola, vous regardez aussi cette bataille qui est en train de se mener hein, dans les processeurs. Avant voilà, on prenait du Intel, on prenait, quand on était sur du portable, on prenait du Qualcomm, et puis là ça y est, tout ça est en train de bouger. Il y a du Nvidia qui n'est pas encore tout à fait dans les portables, mais enfin on voit que c'est vraiment en train de se reformer et qu'il y a des nouvelles alliances à faire.
Oui, alors nous on monitore ça de très près, hein, mm-hmm. et on fait forcément attention à notre sourcing. Donc on travaille autant avec Snapdragon qu'avec MediaTek, avec Unisoc, suivant les différentes gammes de produits, parce qu'on couvre quand même un scope de produits qui est très large, hein, de 99 jusqu'à 1200 euros. Mm-hmm. Donc on adresse beaucoup de besoins, mais c'est quelque chose qu'on suit avec attention. Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que vous regardez aussi les nouveaux services? On voit que, je recite Apple, mais ils sont beaucoup dans le domaine de la santé, ils font le lien avec la montre. Est-ce que chez Motorola, vous dites, bah, tiens, parce qu'il est pliable, on a peut-être d'autres, des secteurs qu'on peut adresser de façon un peu plus compétitive par rapport à vos concurrents?
Alors, au travers de nos nombreux partenariats, typiquement, on a un partenariat très fort avec Bose. Donc ça nous permet de commencer à développer un écosystème. On a annoncé en même temps que ce produit des mototags, qui sont des trackers qui vous permettent de retrouver vos clés, votre chien, enfin toutes les choses auxquelles vous tenez. Et on va continuer à développer cet écosystème et ces partenariats, aujourd'hui qui sont essentiellement au nombre de trois, entre Bose sur la partie technique, écosystème audio, Pantone sur la partie fashion, design, iconique, on s'appuie sur Pantone pour la calibration de nos écrans, et Google évidemment et Gemini pour la partie intelligence artificielle.
Vous avez évoqué le mot les mototags.
Oui.
Donc ça aussi c'est les AirTags. Voilà, c'est ces petits capteurs qu'on
va mettre. C'est ça. En fait,
ces petits trackers plutôt. Oui.
Ce sont des trackers avec l'ouverture de Find My Device par Google. Donc aujourd'hui, enfin ces petits trackers en fait qui vous permettent de retrouver vos objets perdus se connectent à l'ensemble de l'écosystème Android existant, donc qui est quand même extrêmement vaste. Mm-hmm. Et donc dès que ce capteur en fait passe à côté d'un smartphone Android, vous savez localiser en fait l'objet que vous avez perdu.
Je reviens sur le modèle du Razer, donc avec ce côté pliable. Est-ce qu'on joue un peu l'effet nostalgie aussi, enfin voilà, pour les plus anciens, mais que voilà, les populations se rajeunissent, enfin vieillissent, mais les j'imagine que votre clientèle rajeunie aussi n'a pas forcément connu la grande époque du Motorola, mais il y a quand même ce côté un peu nostalgique, hein, d'ouvrir son téléphone.
Alors, nous on croit beaucoup à ces, enfin chez Motorola, à cet ADN. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a le Hello Moto, enfin oui. Cette sonnerie qui est hyper connue. Il y a notre logo. Enfin, on est quand même un des seuls industriels à avoir un logo très identifiable, ce Batwing. Mm-hmm. Et on a tous, enfin en tout cas quand les produits sont développés, on a tous ce souvenir en fait de la fermeture de son smartphone et ce bruit de
clap. Ouais, oui.
Voilà.
Et puis un côté un peu plus en confiance, en sécurité, quoi. C'est vrai.
C'est ça. C'est fermé. Voilà. C'est fermé. C'est sécurisé. Et c'est un côté voilà très agréable dans la poche. C'est un produit iconique. On a voulu fashion et qui est pour nous un accessoire, plus quasiment un accessoire de mode.
Aujourd'hui, à quoi font attention ceux qui vont regarder un peu les caractéristiques techniques d'un téléphone comme le Razer 50 ou l'Ultra, ils vont faire attention à quoi? Alors, l'appareil photo, l'autonomie, mais même s'ils veulent regarder un peu plus en détail.
Alors, il y a évidemment la taille de l'écran et la qualité de l'écran. Aujourd'hui, enfin, si vous voulez avoir par exemple une expérience gaming très aboutie, il faut des taux de rafraîchissement et des processeurs très élevés, donc c'est très important pour l'expérience. Ils regardent la capacité, mm-hmm. Mémoire, ils regardent la charge. Pour que vos smartphones tiennent une journée, voire deux journées. La façon dont on charge, la vitesse à laquelle on charge, ces produits-là, ils se chargent avec des chargeurs de capacité de 68 watts, qui sont les mêmes chargeurs en fait que des chargeurs d'ordinateurs portables, hein, parce qu'on fait partie du groupe Lenovo. Mm-hmm. Et ça vous permet de charger votre smartphone en moins de 10 minutes, et vous pouvez y compris le charger à l'aide d'un chargeur sans fil, il suffit de le poser et il se recharge.
Alors je venais justement, vous avez cité avant moi Lenovo. C'est vrai que Lenovo, au niveau des portables, portable, on le voit dans toute la communication qui est faite, sur les salons Mobile World Congress, etc., sur le côté l'empreinte carbone. Est-ce que ça, c'est un argument aujourd'hui de vente, de dire, on en parlait tout à l'heure, attention à trop communiquer sur le mien est plus bio et plus recyclable que d'autres. Mais est-ce que c'est quand même un argument qui vaut à la fois au grand public et pour les entreprises aujourd'hui?
C'est extrêmement vrai pour les entreprises. Hein, oui. Ça fait partie maintenant lors des grands appels d'offres,
des charges,
de cahiers des charges très établis. Donc il faut qu'on soit en capacité de proposer des montées de mise à jour très généreuses et qu'on démontre et qu'on prouve la durabilité de nos produits. On a besoin aussi de démontrer aux consommateurs que ces produits sont réparables facilement au travers d'index aujourd'hui qui sont publiés en point de vente à côté du produit. On sait qu'un produit comme celui-là a un index de 8 sur 10, donc peut être réparé assez facilement et pendant très longtemps. Et toujours sur ces aspects de durabilité, la norme IP68, donc qui protège des protections de l'eau, etc. Enfin, ces ensembles d'initiatives.
Ouais, ça commence à monter.
Enfin, rend le produit durable.
Ça fait partie vraiment des critères aujourd'hui.
On a envie de garder son smartphone un petit peu plus longtemps et on a envie de pouvoir le réparer quand c'est nécessaire.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Et donc, joyeux anniversaire donc, au Razer qui fête ses 20 ans. Pierre-Yves Hurtmeyer, directeur général de Motola France et Benelux. Et puis, ils sont déjà disponibles, les Razer 50 et Razer 50.
C'est ça, avec une offre de lancement associée à Bose et très généreuse.
Et puis, les couleurs sont pas mal. Je crois qu'il y a pêche.
La Peach Fuzz qui est la couleur de l'année. Oui. On s'appuie sur Pantone pour mettre sur les marchés les couleurs qui font les tendances d'aujourd'hui et de demain.
Et bien voilà. Et puis je crois que d'après ce que j'entends, alors moi je ne suis pas encore au pliable, mais je sais que ceux qui passent au pliable me disent on ne peut plus se repasser.
C'est très difficile de revenir sur un format standard.
Voilà. Et bien l'essayer, c'est l'adopter. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on enchaîne. On va retrouver la rédaction de Tech & Co. C'est tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et on retrouve Willem Gay, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Willem, merci d'être avec nous, journaliste Tech & Co. Alors on va parler des caméras de surveillance. Alors c'est vrai que l'été arrive, on est tenté un peu d'allonger un peu sa soirée, parfois de boire un peu, ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas avec modération. Certains veulent quand même reprendre le volant. Et là maintenant, la tech, elle est vraiment là pour nous empêcher tout ça.
Eh bien écoutez, oui Frédéric, absolument. On a des caméras de surveillance pour détecter un état d'ébriété. Les premiers tests en laboratoire ont été prometteurs. C'est des ingénieurs australiens qui sont à l'initiative de ce projet. Cette caméra de surveillance que vous venez d'évoquer, c'est en fait un boîtier capable de scanner le visage des conducteurs. Alors ça existe déjà, c'est la reconnaissance faciale toute bête. Mais la nouveauté, c'est qu'elle possède un algorithme qui analyse les traits du visage, la direction du regard et la position de la tête d'un individu pour évaluer son niveau d'alcoolémie. Dans un environnement simulé mais réaliste, le système a atteint une précision de 75% pour détecter différents niveau d'alcoolémie. C'est un pas en avant significatif dans la lutte contre l'alcool au volant.
Et alors, est-ce que ce dispositif peut déjà, d'ores et déjà être exploité par les forces de l'ordre? Est-ce qu'on est juste au stade de l'expérimentation?
On ne peut rien vous cacher, Frédéric. Bien sûr qu'on est encore au stade de l'expérimentation. C'est une technologie qui n'en est qu'à ses débuts. Les chercheurs doivent encore déterminer la résolution d'images nécessaires pour que les résultats soient fiables à 100%. Si une basse résolution suffit, on pourrait envisager d'installer ces caméras le long des routes, un petit peu comme les radars pour détecter la vitesse.
On n'est pas obligé de l'avoir dans la voiture, on verrait.
Absolument. Comme les radars qui détectent la vitesse des véhicules. Cependant, les experts soulignent que cette méthode ne peut pas être utilisée seule. Elle doit compléter d'autres technologies déjà existantes, comme les éthylotests embarqués ou les systèmes détectant une conduite erratique. En attendant que le dispositif arrive en France, rappelez-vous d'une chose, boire ou conduire, il faut choisir.
Oui, rappelez-vous que l'été, vous pouvez boire avec modération, bien entendu, mais ne surtout pas prendre le volant juste après. Et voilà, en plus, la tech, maintenant, va venir un peu détecter tout ça. Merci, Willem Gay, l'article à retrouver, comme beaucoup d'autres, sur le site de Tech & Co. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on s'envole tout de suite, on prend les airs, mais avec un avion électrique.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
La start-up, alors vous allez me dire, Benjamin Persiani, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général adjoint. On dit Inui.
Alors on dit Énué.
Énué, parce qu'il y a, alors pour ceux qui nous suivent en radio, c'est E-E-N-U-E-E, voilà. Énué, fondé en 2019 à Saint-Étienne, c'est un avion qui pourra emmener une vingtaine de passagers, décollage multisurface, on va le dire, ça peut décoller sur la neige, sur la terre, sur le bitume, bien évidemment. Une vitesse en vol de 250 km/h, à 3000 mètres d'altitude, vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on se dit... on en est où du développement de cet avion ?
Alors, comme vous le dites, la société a été créée en 2019, mais on ne part pas de zéro. Oui. D'abord, on est issu d'une première start-up qui s'appelait Lisa Airplanes et qui a développé un premier avion, biplace, thermique évidemment à l'époque, mais qui était déjà qui visait déjà vraiment une efficience exceptionnelle et qui travaillait déjà avec des hydrofoils. Cette société a été créée en 2019 pour aller vers un avion qui se permet sur le marché d'ici 2030. Aujourd'hui,
ça arrive vite quand même.
On espère aller vite. Après,
alors évidemment, il y a toutes les normes, les réglementations,
d'aléas qu'il va falloir franchir, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, on a fait voler plusieurs preuves de concept. On en est à la troisième. C'est une preuve de concept à échelle 1/7. Ça veut dire environ un peu plus de 4 mètres d'envergure. Et pourquoi on fait ça? Parce que notre innovation repose vraiment sur l'efficience de l'avion, et pour ça, on revoit l'architecture de l'avion. Et en fait, comme les effets sont non linéaires au fur et à mesure qu'on croit, le fait de passer par des échelles intermédiaires permet de dérisquer et évidemment de limiter le risque quand on fera l'investissement sur l'échelle 1 qui est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd en capital.
Quand vous dites revoir un peu le design de l'avion, il ressemble quand même à l'avion ou c'est plus une aile
On voit un peu derrière vous première image. Je vous ai apporté une petite impression 3D pour montrer la différence. Alors peut-être il faut que je le sorte pour qu'on voit le...
Tenez-le au niveau de votre épaule un peu en le tournant. Très bien.
Et donc effectivement c'est une aile volante, c'est ce qu'on appelle un avion à fuselage porteur en fait. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on fait un avion classique, un tube et des ailes, le tube tire l'avion vers le bas et les ailes le maintiennent en l'air. Un avion à fuselage porteur, comme son nom l'indique, le fuselage devient porteur et donc on réduit le besoin énergétique pour faire avancer cet avion. En gros c'est un planeur avec des moteurs électriques.
Et alors l'altitude, on imagine l'autonomie c'est 500 km, on n'est pas parti pour franchir l'Atlantique, mais c'est justement, et on le voit en France avec tout ce qui s'est déroulé, on a fermé des lignes, tout ça, c'est vraiment pour relier, pour une vingtaine de personnes, pour relier Dijon à Auxerre.
Effectivement, notre particularité, c'est qu'on vise vraiment des cas de désenclavement de territoire. On va dire. On a des premiers intérêts, et par exemple, on a des intérêts de gens qui sont en territoire montagneux. Nous, on est une start-up basée à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, 80% du territoire est classé en territoire montagne. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile de desservir ces territoires, notamment par des lignes ferroviaires. Et quand il y a des lignes ferroviaires, elles peuvent être diesel. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment un avion qui va pouvoir opérer depuis des courtes distances, en fait, décoller sur 300 mètres sur le dur, on l'a dit aussi, pour opérer depuis l'eau. Et donc, par exemple, désenclaver un territoire, une ville secondaire, on va dire, sans avoir à faire un investissement lourd, désenclaver et desservir des villes secondaires entre elles. Donc, il y a eu, par exemple, récemment, médiatiquement, on avait parlé des médecins qui sont transportés de Dijon à Nevers en avion. C'est exactement, c'est un cas d'usage auquel on pourrait répondre.
Oui, et vous disiez capable d'atterrir sur l'eau, sur l'herbe, les pistes de petits aéroports, distance de 300 mètres, vous le dites. L'altitude aussi, je voyais, on est 3000 mètres d'altitude, c'est ça? Il n'y a pas de pressurisation à bord.
Pourquoi on fait ça? Parce que quand on prend un avion qui existe en version pressurisée, non pressurisée, le fait de le pressuriser, ça veut dire renforcer évidemment la structure. Et donc, ça veut dire 40% de poids en plus. Même sans aller là-dessus, de toute façon, ces concepts, ils sont super intéressants et ils sont connus dans l'aéro. Simplement, s'ils ne sont pas mis en œuvre aujourd'hui, c'est parce que pressuriser une structure complexe est par définition plus compliqué que de pressuriser un cylindre. Donc, on part sur un avion non pressurisé, effectivement, avec une altitude qui est de l'ordre de entre 2000 et 3000 mètres pour l'altitude de croisière, donc plutôt beaucoup plus bas que les avions traditionnels, qui va nous permettre d'alléger cet avion, et c'est ce qui nous permet finalement, in fine, d'avoir un rayon d'action acceptable avec les batteries actuelles.
Voilà, une autonomie qui permet de dire j'irai plus vite en voiture. Ça veut dire, alors là on voit les contraintes techniques, vous êtes en train de les étudier et on sent que tout cela est parfaitement maîtrisé pour le passage à l'échelle. Il y a des contraintes financières, alors là est-ce que c'est compliqué? Tout projet est compliqué à financer, mais est-ce que particulièrement l'avion électrique, quand vous allez voir des financiers, ils vous regardent, non, merci, vous êtes très gentil, mais revenez me voir dans quelques années?
Alors, ils nous reçoivent gentiment parce qu'ils trouvent généralement que le projet est super, mais effectivement, bien sûr qu'on a une base d'investisseurs qui est plus restreinte, on va dire, que la moyenne des startups. C'est-à-dire qu'on est, par définition, un projet de long terme. Vous dites 2030, c'est demain, mais effectivement, du point de vue d'un investisseur, pas tout à fait.
Quand on voit la vitesse à laquelle vont l'IA générative, c'est...
Voilà, et par ailleurs, en plus de ça, évidemment, c'est très capitalistique. Quand on communique pas tellement sur le budget complet pour arriver jusqu'au marché, mais évidemment, la phase notamment de certification, etc., va être une phase extrêmement coûteuse.
Les grands avionneurs vous regardent, vous soutiennent, vous accompagnent, ou alors eux, ils sont en train de développer aussi leurs projets de leur côté?
Alors, on a des contacts avec les grands avionneurs, certains aspects peuvent les intéresser, d'autres, ils ont aussi leur concept de leur côté, bien entendu. Maintenant, on n'est pas, par exemple, si on se compare à Airbus, évidemment, on n'est pas sur le même créneau, on est sur des avions de nettement moindre capacité et on ne vise pas à faire du transatlantique demain. Donc, je pense que l'un des aspects qui peut être intéressant et qui peut les intéresser, c'est justement ce développement de ce format fuselage porteur, puisqu'il est quand même reconnu comme un concept prometteur pour demain. Je ne l'ai pas dit, mais le fuselage porteur, en fait, on considère qu'il y a JetZero, une start-up américaine, qui a reçu 250 millions de dollars de l'État américain pour développer un ravitailleur pour les armées. Et ils disent qu'ils vont, ils restent en thermique, mais ils disent qu'ils vont réduire la consommation, la diviser par deux.
Oui.
Donc voilà, ça vous donne une idée, évidemment, de la perspective, et c'est peut-être pour ça que, par exemple, Airbus avait fait paraître son projet Zero E, là, d'aile volante à hydrogène.
Donc à la fois de la consommation, et puis évidemment une empreinte carbone moindre. Donc, contraintes techniques, contraintes financières, et puis les contraintes réglementaires, voilà, il faut des certifications. Ça, est-ce que c'est compliqué, ou on peut arriver... Est-ce qu'on est dans le mode de l'avion, ou est-ce qu'on est dans le mode de l'ULM?
Alors non, on va être sur une certification existante d'avion, entendu. Ouais. Ça s'appelle la CS-23. C'est les avions justement jusqu'à 19 passagers. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on communique sur 19 passagers et pas 20, hein, parce qu'après on change de
classification. Ah c'est ça l'astuce.
Exactement.
Enfin, l'astuce. C'est pour ça que c'est...
Et donc bien sûr, c'est une certification d'avion. Ça veut dire plusieurs années, bien entendu, de travaux là-dessus. Les phases suivantes, on prépare aujourd'hui l'équipe qui va porter ça et qui va aller négocier, discuter avec les autorités pour mener à bien cette mission.
Donc là, si tout va bien avec Enuée, on vous retrouve en 2030 avec des avions. Enfin voilà, c'est le modèle que vous êtes opéré. Est-ce qu'il y a un business model aussi, alors de construction d'avion, mais d'aller voir une compagnie aérienne en disant, écoutez-nous, voilà, avec un tel avion, on fera le Dijon-Nevers, ce sera tant du kilomètre. J'imagine que ça aussi, ça fait partie de l'équation du projet.
L'équation, évidemment, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par l'avion, parce que sinon, on aura du mal à le financer. Et oui, donc on va voir des compagnies, on va voir des compagnies aériennes, et donc compagnies aériennes régionales, compagnies d'aviation privée, et puis on va voir aussi des gens qui aujourd'hui ne sont pas forcément des compagnies aériennes justement, mais des opérateurs terrestres et qui font cette mission de désenclavement de territoire, qui eux aussi peuvent être intéressés. J'ai l'exemple de gens qui font des liaisons entre le Puy-en-Velay et Lyon, et demain ils pourraient opérer ce genre de navette, en fait, aller atterrir soit à Lyon-Bron, donc à proximité de la ville pour les gens qui veulent aller dans Lyon, soit à Lyon-Saint-Exupéry pour les correspondances vers le TGV ou l'avion.
Mais rappelons que ce type d'avion est souvent beaucoup plus sûr que prendre la route avec un autocar.
Alors, c'est beaucoup plus sûr. Et par ailleurs, nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, notre avion, à la fin, va consommer très peu. Et donc, consommera moins que, même si vous partez en voiture électrique, consommera moins que ça, consommera moins, en fait, que le TGV aussi par passager transporté.
Eh bien, on espère qu'on pourra rapidement, on sera tous là en 2030 pour assister au premier vol. Et puis, tout le succès que l'on souhaite à votre entreprise Enuée. Donc, Enuée, pardon. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent, c'est E-E-N-U-E-E. Voilà, si vous voulez
expliquer, si vous voulez.
Pardon ?
Je peux même expliquer.
Ah oui, en deux mots.
Le nom Enuée, en fait, c'est parce qu'on a une vision que justement, on va vraiment changer. Ça va devenir de la mobilité. Et donc, il y aura des nuées d'avions dans le ciel qui vont faire des réseaux flexibles. Ouais. Et deux E, parce qu'on est électrique et on reste quand même dans l'aviation. Il faut une certaine sécurité. Donc, il y a une.
Eh bien, on aurait pu commencer par là, mais c'est important de le préciser à la fin. Merci, Benjamin Persiani, directeur général adjoint de Enuée. Donc, ces avions électriques, on espère voir dans nos airs d'ici 2030. Et c'est vrai que pour tous ceux qui bougent de temps en temps de région en région, on voit toute l'importance de désenclaver des régions, des petites îles. Enfin voilà, il y a beaucoup de solutions, de gens qui seraient intéressés. Et c'est vrai, pas forcément seulement les compagnies aériennes, c'est important de le rappeler. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Notre mission se termine. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. La soirée se poursuit évidemment sur BFM Business. Nous, on se retrouve lundi à nouveau avec encore tout notre débrief de la tech. Il va encore se passer beaucoup de choses ce week-end. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.